Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citlan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bonsoir et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette 26e édition Spoilers qui sera consacrée aux spoilers de la série The Mandalorian. Je suis Jean-François et pour discuter de ces spoilers, je suis accompagné de Danny. Bonsoir Danny.
Bonsoir Jean-François.
Et de Francis. Bonsoir Francis.
Bonsoir les gars.
Alors messieurs, que s'est-il passé côté Star Wars ou côté Geeks pour vous dernièrement? Danny, toi sûrement le Star Wars Celebration.
Ouais, je suis en train de me remettre autant financièrement qu'au travail, en train de rattraper le retard que j'ai pris. C'est assez intense, je suis très fatigué, puis j'ai même travaillé en fin de semaine. Donc, je suis pas mal fatigué, puis côté Star Wars aussi, le fait d'avoir été à la célébration, ça m'a empêché de lire un peu. Donc, j'ai pris beaucoup de retard dans mes lectures. J'ai finalement fini Queen Shadow. J'ai commencé Master and Apprentice de Claudia Gray. Puis aujourd'hui, j'ai acheté l'audio drama, on va dire, de Dooku Jedi Lost. Mm-hmm. Puis finalement aussi, je me suis procuré le Making of de Solo de Rob Brido, qui est le superviseur des effets spéciaux chez ILM. Je suis rendu à peu près aux trois quarts du livre. Si vous connaissez les Making of, les livres Making of de Rensler, c'est un peu décevant à comparer à ça. C'est un bel album avec des belles photos et tout. Ça focus beaucoup sur l'après-écriture. Donc, quand Ron Howard a pris le contrôle du film, en fait. Puis, il y a quand même mention de Chris Miller, Phil Lord, brièvement. Mais comme Brido est en charge des effets spéciaux, il y a beaucoup d'emphase là-dessus, autant les effets physiques que numériques dans ce livre-là. Il y a pas beaucoup de texte à comparer à Rensler, donc... vous allez être capable de passer au travers en moins de 2 heures, je dirais. Puis c'est assez épais, là, mais il y a beaucoup de photos là-dedans. Des belles photos, mais il y a beaucoup moins de texte que dans les briques de Rensler. Là. Tu sais, j'aurais voulu voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans les livres de Rensler. Il parle aussi de l'écriture que George Lucas faisait. J'aurais aimé ça qu'on voit les deux Kasdan en train de leur penser derrière la création de l'histoire, etc., du script. Puis ça, il n'y a absolument aucune mention de ça. Donc, j'aurais aimé ça voir ça. Puis c'est souvent une des bonnes parties intéressantes quand tu lis les Making of.
Ok.
Ah, je le suggère quand même, c'est une belle pièce, mais j'ai été un petit peu déçu comparativement à ceux qu'on connaît. Là.
Ok. Je sais pas si je vais le checker. J'ai les autres, fait que je vais sûrement juste l'acheter pour avoir le livre comme toutes les autres.
Mm-hmm.
Mais bon, parfait. Et Francis, toi de ton côté?
Moi aussi, l'audio de Master and Apprentice, j'ai terminé ça la semaine passée.
Wow, tu lis vite?
j'écoute vite. Ouais, c'est ça. C'est quand même pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire. Je vais laisser... De toute façon, on va sûrement faire une émission éventuellement là-dessus. Je vais laisser la chance aux gens de se faire leur propre idée. Mais je sais pas. J'ai une petite déception quand même de mon côté. J'ai entamé la lecture des Archives secrètes des rebelles. Donc, Daniel Wallace, donc un livre in-universe, comme il y en avait eu d'autres par le passé. J'ai trouvé ça quand même bien intéressant, là. Tu sais, c'était plus pour mon plus vieux là, que j'avais acheté ça. Puis, quand même, tu sais, on apprend des petits cossins. Ça nous rappelle quand même, tu sais, contrairement au livre de référence, où est-ce qu'on est vraiment dehors, là, t'es dedans, t'as les commentaires de Poe, de Leia, etc., puis, tu sais, ça te rappelle la série Rebels, Rogue One, etc. T'sais, ça fait vraiment un topo là, du début de la rébellion, là, mettons, dans Revanche des Sith. Tu sais, jusqu'à la résistance. Ouais. Là,
c'est comme des dossiers policiers, un peu.
Ouais, exactement. Ça fait très rapports gouvernementaux. Là, fait que, tu sais, je suis pas dépaysé de mon travail.
pas du tout, c'est ça.
T'sais, avec,
quand même, mon travail me suit partout.
C'est ça, t'sais, expéditeur, t'sais, destinataire, code de sécurité, etc. Puis avec énormément de stock en Oradesh aussi. Là, t'sais, pis, non, c'est quand même super bien fait. Puis la qualité du livre en tant que tel là, de chez Hachette, là, vraiment, c'est nickel. Là, un beau livre embossé, etc. Là. C'est vraiment, okay. On n'est pas dans le cheap. Et sinon, bon, comme d'habitude, je continue de lire quelques comics à gauche, à droite. Là, on est dans Age of Rebellion qui a commencé. Fait que c'est pas mal ça pour moi.
Excellent. De mon côté, c'est assez tranquille ces temps-ci. J'ai pas grand temps consacré à moi avec ma conjointe qui est à Toronto pour le travail. Donc, je suis pas mal... Mon temps est assez restreint. Mais j'ai commencé à lire Master and Apprentice. J'étais à peu près rendu à, je dirais, à la moitié du livre. Un peu comme Francis, je suis un peu déçu jusqu'à présent. Je pense peut-être les attentes étaient trop élevées. Puis je me suis procuré le livre de Dooku, l'audiobook de Dooku Jedi Lost, que j'ai commencé à écouter ce matin. Que, ouais, je sais pas encore. Je suis pas trop sûr. Je trouve ça cool parce que, tu sais, comme Asajj Ventress, c'est la voix de l'actrice qui fait Asajj Ventress dans la série Clone Wars. Mais Dooku ne sonne pas du tout comme Dooku. il sonne comme un peu comme l'empereur. C'est vraiment weird, là. Tu sais, Dooku, il a un accent comme un peu... Il a un accent britannique, tu sais.
Mais c'est-tu Mark Thompson?
Non, c'est comme... c'est plusieurs acteurs qui font les voix. Fait que chaque personnage a son propre acteur ou son propre la personne qui fait la voix. Mm-hmm. Fait que j'ai hâte de voir la suite. Et c'est pas mal ça de mon côté. Donc, on vous rappelle nos plus récentes émissions. Il y a le Star Wars Littérature 31, où nous avons fait la critique du livre Queen's Shadow. Ainsi que le Star Wars en direct 168, où on a fait l'analyse du teaser du film Rise of Skywalker.
Mm-hmm. Je rappellerai que si vous avez été sous une roche au cours du dernier mois, ben regardez aussi nos Star Wars en direct édition spéciale, qu'on a fait des tonnes de... l'épisode de célébration. Donc, si vous voulez vous mettre à jour puis voir nos impressions, allez sur Facebook, regardez nos vidéos là, ou sur YouTube. Il y a aussi une version podcast, mais la version YouTube et sur Facebook, il y a des images à vous montrer en même temps. C'est plus intéressant.
Mm-hmm. On rappelle aussi qu'on est toujours en période de recrutement au Québec et en Amérique du Nord. Donc, si vous êtes passionné de Star Wars et vous voulez en discuter avec nous, allez sur notre site internet à starwars.direct, section recrutement. Et on mentionne aussi que nous avons une petite boutique à starwars.direct, section boutique, où vous pouvez vous procurer des t-shirts et des tasses si vous êtes en Europe. On en profite pour remercier nos partenaires Mint Inbox, Star Wars Olonet, SitClan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que Jeff et Kim, le Space Trash Show. Et sur ce, on va en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Donc, notre sujet principal aujourd'hui est la série The Mandalorian. Donc, nous allons discuter des spoilers qui ont été montrés au Star Wars Celebration à ceux qui étaient présents dans la salle, mais aussi, si vous cherchez un peu sur YouTube, vous pouvez trouver les vidéos. Donc, si on commence par juste donner quelques informations officielles et générales de la série de Mandalorian. Mm-hmm. Donc, on a appris que la série va paraître sur Disney+ le 12 novembre. Du moins, le premier épisode va être disponible le 12 novembre.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis, oui. Donc, Disney+ sera lancé aux États-Unis le 12 novembre. Au Canada, on devrait l'avoir entre le mois de janvier et le mois de mars 2020. Et en Europe, je crois que c'est fin 2020, même début 2021, dépendamment de la région.
Je pense que beaucoup de monde vont l'avoir téléchargé déjà avant même que ça arrive au Canada. On va tous le connaître.
Oui, exactement. Je pense que le 12 novembre, tout le monde est en train de télécharger The Mandalorian.
C'est ça qui est étrange dans la stratégie de Disney. Je sais que j'ai suivi un petit peu le dossier, je comprends qu'avec toutes les législations différentes dans chaque pays, tout ça, c'est quand même assez toute une job là, de lancer ça dans chaque pays. Puis on se rappellera que dans un sens, Netflix et compagnie, ça a été beaucoup plus tard aussi ailleurs, mais comme vous venez de dire, c'est tellement majeur, c'est Star Wars. Tout le monde va l'avoir téléchargé là, en Occident, en dehors des États-Unis, je veux dire, c'est Au niveau revenu, ou en tout cas au niveau exclusivité, je sais pas, là, j'ai de la misère un petit peu à saisir. Là, le... C'est comme s'il nous sortait le prochain film, l'épisode 9, mais juste aux États-Unis.
Ben, tu sais quoi, je pense que, je sais pas si nous on va pouvoir le voir sur Netflix. La raison pourquoi je dis ça, parce que Netflix a encore les droits internationaux de Disney. Juste attends que Disney Plus soit disponible dans les différentes régions. Mm-hmm. Donc, je sais pas si ça va toujours être disponible. Quoique, ils ont enlevé Clone Wars sur Netflix Canada. Donc,
exactement, c'est ça.
Est-ce qu'ils voudraient s'empêcher d'attraper des nouveaux abonnés en laissant Netflix au Canada, par exemple, ou en Europe, avant qui sort Disney Plus? C'est sûr que le monde va le télécharger, là, je comprends, là. C'est un peu comme Game of Thrones, la saison 8, HBO, il est un peu partout dans le monde, mais le monde télécharge pareil.
Ouais, c'est ça.
Ben, c'est ça, c'est que ouais. Si tu sais, effectivement, ça reste que c'est un concurrent, Netflix, mais ça reste qu'il paye des droits. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça, si le monde l'écoute en ligne en le téléchargeant illégalement, ben, ils font pas une scène avec ça. Mm-hmm. Fait que je sais pas, en tout cas, on va voir, là.
C'est un peu de la même façon que ceux qui connaissent DC, le DC Comics, ils ont une application qui s'appelle DC Universe, qui est juste disponible aux États-Unis en ce moment, où ils ont des séries exclusives comme Teen Titans, puis Doom Patrol. Mais là, au Canada, exemple, Teen Titans est disponible sur Netflix depuis que la série a le jour au complet aux États-Unis. Okay. Puis ça va être la même chose avec Doom Patrol quand la première saison va être finie. Juste attendre que, justement, l'application soit disponible au Canada. Donc, c'est Netflix qui a les droits internationaux. Donc, peut-être que ça va être la même style. Mm-hmm. Quoique, vu que Disney Plus ont quand même une stratégie assez agressive de vouloir s'implanter un peu partout dans le monde en un an, ce que DC Universe ne semble pas vouloir faire. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, ça va être un peu plus restreint côté droit. Donc, ce qu'on a appris, c'est ça, c'est que le 12 novembre, le premier épisode va être disponible. Ça va être un épisode par semaine, je crois, et Danny, je ne sais pas si ça a été confirmé, là, mais il me semble qu'il y a 8 épisodes la première saison.
Ouais, c'est pas en haut de 10, je me souviens pas exactement.
Ouais. On ne suit pas encore officiellement Lucasfilm, mais qu'il y a une deuxième saison qui a été approuvée déjà par Disney. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Si on y va avec les acteurs principaux de la série. Donc, il y a Pedro Pascal qui joue le rôle du Mandalorian. Donc, Pedro Pascal qu'on a pu voir dans la série Game of Thrones.
Et Narcos.
Et Narcos, c'est vrai, oui. La première série Narcos.
Mm-hmm.
On a ensuite Carl Weathers qui joue un personnage qui s'appelle Grief Karga, qui est le chef de la guilde de chasseurs de primes. Donc, Carl Weathers, qu'on a pu voir dans la série Rocky, qui jouait Apollo Creed, ainsi que dans le premier Predator. Et aussi, pour ceux qui écoutent Arrested Development, il avait un rôle très mémorable. Ensuite, on a l'actrice, Gina Carano, qui joue un personnage qui s'appelle Cara Dune. Cara Dune, qui est une ancienne Shock Trooper rebelle. Et Gina Carano, elle, ben, c'est une ancienne combattante de MMA.
Ok.
Donc, elle n'est pas. Je suis pas certain que c'est son premier rôle, mais.
Non, elle était dans Deadpool.
Ah oui, c'est vrai. Deadpool, ben c'était son premier rôle. Mm-hmm. C'est ça. Merci, Francis. Ensuite, un acteur que plusieurs connaissent, Giancarlo Esposito, qui était Gus Fring dans la série Breaking Bad, qui joue un seigneur impérial. On n'a pas son nom, je ne sais pas si ça a été donné durant la...
Je pense pas que ça a été donné encore.
Non, c'est ça. Ensuite, d'autres
acteurs... C'est un des meilleurs méchants à la télévision de nos jours.
Ouais, c'est ça.
Ouais, clairement.
Peut-être que son nom, ça va être Los Pulos.
Los Pulos.
Ensuite, on a des autres personnages qui ont été confirmés. Il y a Nick Nolte qu'on n'a pas vu dans aucune bande-annonce ou rien ou quoi que ce soit encore.
C'était peut-être, au lieu d'un cochon, c'était peut-être le petit Salacious Crumb qu'on va vous parler tout à l'heure.
Ouais, peut-être.
Parce que tu sais, la rumeur, c'était qu'il faisait comme une espèce de Hognut.
Hognut, ouais, c'est ça.
Mais bon.
Donc, c'est un personnage principal, supposément, mais qu'on n'a pas encore de détails. Il y a le réalisateur.
J'ai une idée qu'on va essayer de. Non, je vais vous sortir ça tantôt.
Ok. Il y a le réalisateur Werner Herzog. Donc, lui, il joue le rôle d'un vilain aussi dans le film.
Bon, on le voit, on va en parler tout à l'heure.
Oui. Ensuite, nous avons Taika Waititi, qui est le réalisateur, un réalisateur de deux épisodes, je crois, de Mandalorian. C'est lui aussi qui était le réalisateur du dernier film Thor. Lui, il joue la voix de IG-11. Donc, ça a été confirmé que ce n'était pas IG-88 qu'on voyait, mais bien IG-11 dans les photos que John Favreau a mis de disponibles. Et une petite surprise pour ceux qui suivent les stand-up, les comics stand-up. Donc, le comédien Bill Burr, qui est très drôle d'ailleurs, qui joue le rôle du personnage. On n'a pas de nom. Ceux qui ont vu la bande-annonce, c'est lui qui a comme le fusil sur l'épaule, qui tire, comme la petite tourette sur son épaule qui tire. Mm-hmm. Donc, il joue ce personnage. Et donc, c'est ça pour les acteurs principaux de la série.
On oui, sait c'est que... des espèces de blasters comme prédateurs sur les épaules. Oui,
ouais, c'est ça, ça fait penser à ça, c'est vrai. Hein? ensuite, on a su que c'est Dave Filoni, c'est lui qui a réalisé le premier épisode avec Jon Favreau. C'est pas mal tout ce qu'on a comme information officielle qui est sortie là, au cours des dernières semaines. Donc, si on commence à y aller en détail avec les informations qui ont été présentées au Star Wars Celebration, il y a eu la présentation d'un behind the scenes. Alors, Danny, je ne sais pas si tu peux nous en donner une description générale de ce qu'on voit durant cette présentation.
Mm-hmm. Oui, je pense que c'est le moment d'horreur de tous ceux qui regardaient le stream, car directement dans les premiers 15 minutes ou 15-20 minutes, ils ont coupé à un écran noir pour ceux qui étaient en streaming pour nous présenter un behind the scenes. J'ai vu sur Twitter par la suite, c'était fou, les gens étaient en colère.
Ouais.
Fallait s'attendre à ce qu'ils montrent des choses seulement pour les gens sur place, ça arrive régulièrement. Mais je pensais pas que ça arriverait aussi souvent lors de ce panel. La preuve qu'ils voulaient énormément cacher qu'est-ce qui se présentait. Si vous regardez qu'est-ce qu'on a filmé à Star Wars en direct sur place, on vous a mis une photo qu'ils mettaient partout, dans toutes les entrées, sur les portes des loges, qu'on n'avait pas le droit de filmer. Il y a quand même eu des fuites, mais j'ai entendu des gens autour, avec les gens de Star Wars Geek Québec, il y a des gens qui se sont fait... sortir de la place parce qu'ils se sont fait pris avec leur téléphone en train de filmer, etc. Donc, ils ont été assez sérieux par rapport à ça. C'est sûr qu'ils peuvent pas attraper tout le monde, bien
mm-hmm.
sûr.
Mm-hmm.
Mais bon, ça leur a permis d'avoir quelques vidéos fuitées que, d'ailleurs, je vais mettre dans l'article de l'émission. Donc, tout ce qu'on va parler, vous allez le voir. La qualité est pas superbe, le son est pas superbe non plus. Sauf l'extrait qui est tiré directement du feed qu'il y avait du Star Wars sur le site YouTube officiel de Star Wars. Donc, cette partie-là va être très claire. Mais le reste, c'est plutôt avec un angle. T'entends des gens parler pendant les présentations, etc. Donc, c'est pas parfait. Mais bon, ça va être assez parce que vous risquez de pas voir ces images-là avant un bon petit bout de temps. Donc, je vais vous décrire un peu qu'est-ce qu'on voit dans le behind the scenes. Et puis, on va en discuter après. Donc, ça commence... avec le Mandalorien qui est sur une planète de glace et puis qui est en train de suivre un signal d'un tracker ou une sonde électronique, puis il marche le long d'un chemin qui semble relier des bâtiments sur un lac gelé. Au début, j'ai dit peut-être de la neige, mais ça a l'air d'être comme sur un lac gelé.
Mm-hmm.
Après ça, il rentre dans un bâtiment par une porte circulaire qui s'ouvre comme du centre vers l'extérieur, un peu comme une lentille de caméra. Ou un peu comme si vous connaissez les films de James Bond, là, l'espèce d'introduction avec l'espèce d'ouverture, la aperture qu'on dit en anglais. Là.
Mm-hmm.
Après, il rentre dans le bâtiment, puis selon moi, c'est peut-être la même cantine où est-ce qu'il va rencontrer Grief, mais je suis pas sûr du tout, on va en parler plus tard. Ensuite, ça coupe au logo de Lucasfilm, puis on enchaîne avec des séquences de tournage avec la voix de Jon Favreau, Dave Filoni et les autres réalisateurs... qui sont présentés dans ce behind the scenes-là. Donc, tu as Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard et Taika Waititi. Donc, je vais passer rapidement tout ce qui se dit. Et puis après, je vais vous décrire rapidement en rafale les images qu'on voit. Donc, qu'est-ce qui se dit par-dessus plusieurs images? Bon, John Favreau mentionne, bon, ça se déroule 5 ans après le retour du Jedi et on suit un Mandalorien, un gunslinger, je savais pas trop comment le traduire, c'est un gunman ou un tireur, là. Qui est chasseur de plumes, qui est aussi un résident du Underworld dans les bordures extérieures de la galaxie. L'histoire commence avec lui qui chasse des primes et qui fait de l'argent. C'est un personnage que vous avez jamais vu encore dans une époque que vous avez jamais vécu encore. Ensuite, Pedro Pascal embarque et il dit « Le Mandalorien a une esthétique particulière, une présence très puissante et mystérieuse, une armure qui fait penser aux chevaliers du Moyen-Âge. Il est très facile de s'identifier à ce personnage parce qu'on a toute une armure personnelle pour se cacher un peu derrière les gens. » Deborah Chow aussi mentionne « En tant que réalisateur, je crois que John a bien choisi son équipe. » Et puis là, Pedro Pascal énumère justement les réalisateurs. Il dit Dave Filoni, Dallas Howard, Deborah Chow, Rick Famuyiwa puis Taika Waititi. D'ailleurs, Rick Famuyiwa mentionne « On a tous des voix et des personnalités différentes en tant que cinéaste que l'on amène sur la table et dans cet univers Star Wars. » Deborah Chow continue avec les points de vue de tout le monde est introduit dans l'histoire, donc tout le monde a collaboré à créer cette histoire-là. Chacun avait sa voix dans la réalisation de la saison 1. John Favreau rajoute que cette série nous donne aussi la chance d'introduire des nouvelles planètes, des nouvelles races et espèces, des nouveaux vaisseaux. Mais malgré tout, on voulait que ça soit cohérent puis que ça reste connecté et familier à l'univers Star Wars. Donc on le voit clairement aussi avec les images qui nous montrent que c'est très très familier. Pedro Pascal continue en disant que c'est vraiment une aventure Star Wars. C'est le cœur de ce qu'est Star Wars. Dave Filoni puis John Favreau termine avec ça va être cru, raw. Ça va avoir l'air vrai. John Favreau dit aussi c'est quelque chose que tout le monde va pouvoir s'asseoir et apprécier, écouter. Donc ça, c'est tout ce qu'il dit. Maintenant, je vais vous raconter vite les différents trucs qu'on voit en rafale. On voit un décor où est-ce qu'il y a des bâtiments qui rappellent Mos Eisley sur Tatooine, qui est probablement le lieu principal d'ailleurs. Mais il y a un village aussi qu'on voit en aérien qui a l'air... Les rues forment une espèce d'astérisque encavé dans des vestiges comme une énorme coulée de lave qui aurait séché noir. Si vous regardez attentivement, les rues font comme un astérix en X, comme des pointes de pizza. Juste les rues, c'est comme creusé dans de la lave séchée noire. C'est très étrange, vous regarderez quand le vaisseau arrive de loin. On voit un Stormtrooper sur une bête qui est probablement un Dooback. On voit le Razor Crest plusieurs fois, qui est le vaisseau du Mandalorien. On voit le droïde IG-11. On voit le cockpit du TIE Fighter écrasé qu'on avait vu dans une photo fuitée. On voit un habitant de la colonie debout sur l'espèce d'ancienne coulée de lave que je vous parle, qui a l'air de... C'est comme si Hawaï, une fois que la lave est séchée, c'est noir. Mm-hmm. C'est assez intéressant. T'as des concept art de Scout Trooper avec des speeder bikes. T'as des un Mandalorien... je pense que c'est le Mandalorien à côté d'un canon mitrailleur qu'on voit aussi en concept art un peu plus loin. T'as une base spatiale en orbite autour d'une planète bleue, verdoyante. Et dans le hangar, si vous êtes attentif, je pense qu'on peut voir le Razor Crest dans le hangar ou le devant du Razor Crest. On voit aussi la rampe du Razor Crest descendre suivie du Mandalorien. Quand même intéressant. C'est une autre scène qu'on va voir probablement dans le premier épisode. On voit aussi l'arme du Mandalorien comporte une extrémité à double pointe. Un peu comme Boba Fett dans le Holiday Special, ceux qui s'en souviennent, dans le premier dessin animé. L'arme est exactement pareille, en fait. On avait même, je pense, Favreau aussi avait fuité une photo de l'arme.
Ouais.
Puis il disait qu'il y avait eu des vols sur le plateau de tournage aussi, puis une des armes avait été volée ou quelque chose comme ça. Il y avait des éléments du tournage qui avaient été volés du tournage. Bon, puis il y a plusieurs concept art du Mandalorien accompagné de d'autres chasseurs de primes qu'on voit aussi dans la bande-annonce. t'as un superbe concept art du Mandalorian sur un do-back,
ouais,
qui vraiment rappelle encore un peu le Holiday Special. T'as une photo de groupe de Jon Favreau avec les autres réalisateurs, Dave Filoni, Kathleen Kennedy et ceux que j'ai énumérés un peu plus tôt. Les Stormtroopers ont des casques très très endommagés et sales, contrairement à ce qu'on est habitué de voir avec les Stormtroopers qui sont tout le temps très blancs, très propres. On voit un groupe de Jawa qui est quand même intéressant. Mm-hmm. On voit rapidement Gina Carano qui joue Cara Dune. D'autres concept art d'une créature qui est comme une espèce de un mélange entre un Dubak avec des bras de T-Rex avec une tête de poisson un peu. Ça ressemble à un Dubak alternatif, si on peut dire.
Ouais.
Un concept art d'une bataille forestière avec des créatures qui ressemblent un peu à des Nikitos. Tu sais, les créatures qu'on voit sur les skiffs autour du Sarlacc dans Return of the Jedi. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'on va peut-être voir ces races-là d'où ils viennent. Ça a l'air d'être une planète du style Kashyyyk ou Endor. En tout cas, on va voir.
Avec des marécages.
Ouais, des marécages. T'as un concept art d'un vaisseau très élancé. Je pense qu'on le voit aussi très rapidement dans la bande-annonce en arrière du Razor Crest. Il tire sur le Razor Crest, en fait. Qui fait penser beaucoup à un chasseur de nos jours ici sur Terre. Puis tu vois après un concept art du pilote. Je suis pas mal certain que c'est le pilote de ce vaisseau-là. Qui a un casque impérial, mais avec un masque à gaz, ça, un masque pour respirer. Avec des dents comme de dessiner dessus,
ouais.
Qui a fait très terrestre aussi comme look. C'est un peu Top Gun là,
ouais, c'est ça.
Avec le masque pour respirer là, ça donne une impression plus terrestre. Bon, t'as des concept art du Razor Crest sur une plateforme d'atterrissage à côté d'un land speeder qui ressemble beaucoup au X-34 de Luke dans A New Hope, mais avec plus de réacteurs mm-hmm. en arrière.
Mm-hmm.
T'as du concept art d'un Mandalorien avec son jetpack allumé, donc j'imagine qu'on va voir le Mandalorien utiliser son jetpack à un moment donné. À part ça, qu'est-ce qu'on a? On a George Lucas,
ouais,
on voit George Lucas quand il a visité le plateau de tournage quand même. Dans les races, on a vu un Rodien dans la cantine ainsi qu'un Transdotion. Il y avait des rumeurs que Bosque serait peut-être là, ça a été contredit, on verra bien. Ça serait bien qu'il y ait quelques Bounty Hunters connus de l'Empire Contre-Attaque qui soient là. Concept art du Mandalorien qui fait feu avec un Heavy Cannon, j'en ai mentionné plus tôt. On l'a vu sur le plateau de tournage en vrai et là on le voit en concept art. Beaucoup d'explosions. On ouais. voit des explosions aussi beaucoup. Un de mes concept art préférés, c'est que tu vois un Sandcrawler avec la rampe descendue avec en face du Razor Crest. Il y a des Jawa qui sont en train de descendre du matériel, du cargo. Je sais pas s'ils font une autre présentation d'un peu comme à la A New Hope. Ils veulent vendre du stock, peut-être. J'ai hâte de voir si on va voir cette scène-là tourner finalement. Il y a des Jawa, donc c'est possible. C'est fini avec ce concept art-là avec... le Jawa qui descendent leur matériel du cargo. J'ai bien hâte de voir. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en rafale. Je vous invite à le regarder. Ça va très, très vite. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont le sortir, ce Behind the Scenes-là. C'est certain qu'ils vont le sortir avant avant la sortie de Disney+. Je soupçonne peut-être qui vont le représenter à Comic-Con, San Diego Comic-Con, et ouais. qui va être peut-être disponible en ligne à ce moment-là.
C'est ce que je pense aussi, ouais.
C'est probablement ça qui va arriver, peut-être accompagné de la bande-annonce qu'on va décrire plus tard aussi. Mais je doute que le début du premier épisode qu'on va parler un peu plus tard, l'ICRA sera jamais mis officiellement en ligne avant la sortie sur Disney+, d'après moi.
Mmh. Excellent. Moi, quand tu parlais du concept art des Jawa là, qui descendent la rampe, ça m'a fait penser, cette scène-là, ça me faisait penser à Attack of the Clone quand Anakin il cherche sa mère. Là. Mm-hmm. Puis tu vois qu'il arrête puis qu'il parle à des Jawa, puis là tu vois comme deux Sandcrawlers qui sont ouverts, puis tu vois les Jawa ce qu'ils font dedans. Là, ils sont en train mm-hmm. de. Je trouvais ça m'a fait penser un peu à ça. Je trouve
ouais,
ça
cool que
ça va vraiment dans ce genre de détails-là. Là.
Ben, en fait, c'est Mandalorian doit être à la recherche aussi d'informations, puis peut-être que ça retrace à un Sandcrawler à un moment donné.
Exactement, moi ça m'a
on
fait
va parler
penser,
un peu plus tard de nos théories, ouais.
Une des interludes de la trilogie Riposte, qui avait le shérif là.
Ah oui.
Je sais pas si vous vous souvenez, je pense que c'était dans le premier des trois. Que c'était justement.
Ben, en fait, je pense qu'il
n'est
pas dans les trois. Ben, c'est pas dans les deux livres, les deux premiers livres. Il y a... Ah, ben oui, ok. Il, ouais, celui qui. Le shérif qui porte l'armure mandalorienne. Mm-hmm. Il est là dans les deux ou trois, dans les trois livres, mais le Sandcrawler, c'est vraiment dans le premier, ouais.
Ouais, de mémoire, je pense que c'est là qu'il récupère l'armure.
Ouais, exactement.
Mais ouais, moi aussi, c'est mon idée était moins une présentation, comme tu dis, Danny, plus probablement son enquête, là, tu sais, où c'est ça, là, il va au renseignement. Là. Un peu comme Anakin, mm-hmm. justement.
Mm-hmm. Bon, on sait qu'il va avoir beaucoup d'action. Ça, c'est clair. Ouais. Juste de qu'est-ce qu'on voit, les ouais. explosions, il va avoir beaucoup, beaucoup d'action. Ça va être vraiment intéressant. J'ai hâte de voir le mood. Ben, on a déjà une bonne idée du mood que ça va avoir, mais ça va être complètement différent des films destinés à la famille qu'on voit au cinéma. Hein.
Moi, tu parlais du vaisseau. Moi, ça me fait beaucoup penser, ce vaisseau-là, au Halo. Donc, ceux qui se souviennent, ça s'écrit pareil comme le jeu vidéo Halo, mais dans ce cas-ci, c'était le vaisseau de Suji, une chasseuse de primes dans la série Clone Wars. Et par la suite, dans Timeline, c'était sa nièce, là, Jess Emery, qui l'avait dans la trilogie Riposte, encore une fois. Mais c'était un vaisseau quand même assez similaire, avec deux méga réacteurs sur les côtés, au bout des ailes.
Mais... Là, tu parles du vaisseau du Mandalorian.
Ouais, le vaisseau du Mandalorian, comme ça.
Ouais, okay.
Mais peut-être avec un cockpit un peu plus grand, puis un fuselage plus grand. Dans le fond, je vois ça comme un mix entre justement ce vaisseau-là, le Halo, puis une canonnière de la République.
Ouais, un gunship, là, ouais.
Ben, tu sais, c'est ça, puis c'est catégorisé dans les deux cas là, comme un gunship. Là. Celui du Mandalorian, il disait que c'était un gunship. Mais je trouve ça bien original. J'ai hâte de le voir, tu sais, dans ce que tu décrivais tantôt, on le voyait se faire tirer dessus, justement. Donc, j'ai hâte de voir, là, au niveau combat spatial, tu sais, s'il est capable de se défendre ou s'il faut qu'il se contente de fuir, là.
Tu vois, moi, son vaisseau, il me fait penser, je trouve que c'est un mix des vaisseaux de réfugiés qu'on voit dans l'attaque des clones, sur Coruscant, tu sais, quand Anakin puis Padmé, ils vont
c'est
un mélange de ça, puis des gunships de la République. C'est comme si tu mélanges les deux ensemble, on dirait que c'est ça. Mais je trouve le nom du vaisseau, de Razor Crest, c'est vraiment badass.
Il est très chromé.
Ouais.
Un peu comme le vaisseau de la reine de Naboo. Là.
Ouais, effectivement, c'est ça. Ça fait plus, par contre, stainless que chromé. C'est plus ouais. rough. Là, mais,
c'est le meilleur camouflage que tu peux pas avoir dans l'espace.
Peut-être mentionner, là, tu disais, effectivement, Favreau mentionnait que c'est 5 ans après le retour du Jedi. Donc, tu sais, jusqu'à maintenant, on n'avait pas exactement de timeline. Je trouve que ça nous en dit aussi sur tous les impériaux qu'on voit. Parce que on sait qu'à cette période-là, la guerre civile est terminée. Donc, c'est qui ces impériaux-là? Parce que au niveau de la timeline, l'Empire est plus là. Là. Puis Sloane s'est poussé dans les régions inconnues avec ce qui restait.
Ouais.
Là. Donc,
la flotte,
ça veut dire que ce qui reste comme impériaux, c'est des warlords, là, des renégats, mais bref, c'est loin d'être une autorité officielle, là, c'est vraiment plus comme un gang criminel qu'une vraie armée là, à ce moment-là. Puis déjà, tu décrivais les armures sales, etc., tout ça, ben c'est ce qui est décrit dans le deuxième et troisième volume de Riposte. Que déjà à la fin de la guerre civile, là, c'est plus l'Empire qu'on a connu, là, avec les armures immaculées, puis les soldats bien disciplinés, etc. Donc, j'ai hâte de voir, comme John Favreau disait, c'est une période complètement vide, complètement inconnue là, en ce moment. Donc, ça va être intéressant de voir. Je peux pas croire qu'il va pas avoir des références aussi à la République, à la Nouvelle République. Donc,
et peut-être les débuts,
Ben, tu sais, des références, je veux dire, juste des petites affaires dites, là. Entre autres, tu sais, au niveau, justement, la Nouvelle République a pas nécessairement interdit, mais plus, tu sais, veut rien savoir de travailler avec les chasseurs de primes, etc. Donc, puis tu sais, on en parlera plus loin dans l'émission. Mais l'extrait du premier épisode commence justement sur la réplique « Les temps sont durs », quelque chose comme ça. Fait que non, ça va être intéressant de voir ce qu'il y en est, mais visiblement, c'est pas la panacée là, pour les chasseurs de primes. C'est pas ce que c'était sous l'Empire.
Mm-hmm. Mm. Non, c'est ça. Il faut qu'ils fassent leur propre... faut qu'ils trouvent leur propre boulot. Ils ont plus l'Empire pour recevoir des jobs.
Mm. Non, c'est ça. Enfin. Puis moi, je pense que l'Empire, de ce qu'on voit, les Stormtroopers, là, c'est comme... c'est le rôle de, justement de Giancarlo Esposito là, qui est comme le warlord. D'après moi, c'est peut-être comme un gouverneur du secteur quoi que ce soit, que lui il veut garder le contrôle de ce qu'il y a en ce moment.
Moi je m'étais noté aussi que contrairement à ce qu'on aurait pu croire quand on avait juste des informations au départ là, je pense que Dave Filoni clairement a un rôle beaucoup plus grand dans la production que ce qu'on pensait au début là. C'est loin d'être juste le réalisateur du premier épisode. Là, clairement, il y a une collaboration avec Favreau. C'est vraiment pour toute la série. Probablement en termes de coordination avec l'univers Star Wars en général.
Là. Ouais, ben c'était clair quand Kathleen Kennedy l'a présenté au début du panel. Mm-hmm. C'était clair qu'ils ont collaboré depuis le début ensemble. Dave Filoni, c'est le nouveau George Lucas là, mm-hmm. De Lucasfilm là. C'est lui qui a les connaissances, qui a comme qui a appris du maître en fait là. Donc je suis content qu'il est quand même impliqué. Il a fait quand même du bon travail avec Clone Wars Pure Rebels, fait que je suis content qu'il aide Favreau qui est un excellent producteur et réalisateur, mais là, en plus d'avoir quelqu'un qui a l'expertise de la télévision du côté de Lucasfilm, même si c'est pas des séries animées, il y a quand même, comment dire, la façon de faire les procédures, comment gérer, il y a quand même ici comment gérer l'univers Star Wars.
Exact.
Fait que je serais pas surpris qu'il y ait beaucoup de références à Clone Wars ou à Rebels dedans.
Ah ben là, c'est sûr, il ramène toujours ses trucs. Là.
C'est ça. Le behind the scenes n'était pas le seul... extrait qui a été montré à l'audience au Star Wars Celebration. Il y a aussi eu le premier teaser de la série. Alors, Francis, je ne sais pas si tu peux nous donner une description générale de ce que le teaser montre.
Est-ce que je peux juste avant expliquer le contexte pour ceux qui n'étaient pas là?
Vas-y.
Qu'est-ce qui est arrivé en fait, c'est que le panel se termine et puis il dit ben, merci à tous les auditeurs. Qui nous écoute sur le streaming et tout. Merci de nous avoir écoutés, blablabla. Là, le monde dans le Wintrust Arena, où est-ce qu'on est, commence à sortir. Parce que, bon, on avait vu un behind the scenes. Pour nous, c'était ça, là. C'était ça, la partie secrète. Surtout qu'il avait dit qu'il l'avait coupé. Sur le streaming, on a dit, c'est ça qu'on va voir, c'est ça qu'il nous montre. Et on était un peu satisfait avec ça. On avait vu l'affiche, etc., donc c'était cool. Mais là, aussitôt que le stream a été coupé, puis là, John Favreau, il voit le monde en train de sortir de l'aréna. Il dit « Non, 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 restez là, restez là! » Il dit « Vous, on vous a gardé quelque chose qui est vrai, là. On va vous montrer le vrai stock, là. » Fait que là, le monde, wouh! Le monde a commencé à crier, là. Ça, c'était là, tout le monde est revenu. Tout le monde est revenu s'asseoir. Et c'est là qu'ils ont montré le premier extrait, un extrait de 8 minutes environ du premier épisode. Et puis le teaser qu'on va parler immédiatement, qui est suivi par le... Là, on le fait pas dans le même ordre qui ont été présentés. Là, on va commencer par le teaser. Mais vraiment, on a été relativement surpris quand John Favreau a dit « Non, non, allez-vous-en pas, là, on vous montre vraiment du vrai bonbon. »
Donc, dans le fond, encore une fois, ça, comme disait Danny tantôt, pour ce qui est du behind the scenes, ça va vite, c'est quand même en rafale et c'est quand même beaucoup sur l'action. Donc, il y a quand même pas mal de stock, mais en gros, on va essayer de résumer ça. Ça commence avec notre personnage favori, le Mandalorian, qui se bat avec le personnage de Gina Carano. Ils finissent là au sol là, dans une super cascade. Donc, j'imagine que c'est leur rencontre là, qu'on nous présente là. Quelque chose comme ça. Mm-hmm. Ensuite, on enchaîne avec le Warlord de Giancarlo Esposito qui est au sol. Donc, sur ce qui semble être Tatooine, là, entouré d'une coupe de Death Trooper. Donc,
ouais, on pensait qu'ils avaient tous disparu.
Exactement.
Parce qu'il y a eu toute la trilogie originale sans les voir. Où étaient-ils?
Ouais, ben c'est ça. T'sais, ça reste que c'était des troupes d'élite pour la... Je pense que c'était...
Ouais, des bodyguards un peu.
Ouais, puis pour spécifiquement, je pense, plus pour les renseignements, pour les affaires du BSI, etc. En tout cas, on sait très bien pourquoi ils n'étaient pas dans les anciens films. Mais bref, c'est quand même une belle surprise de voir qu'on va les avoir. Et tout de suite après, donc son personnage dit donne un ordre de brûler ce qu'il y a devant lui. Donc tout de suite après, on voit un flametrooper impérial. Donc pour la première fois à l'écran, on avait déjà vu ça évidemment dans des jeux vidéo, mais un flametrooper en action au lance-flamme là, qui fout le feu à une bicoque sur Tatooine. Je sais pas si c'est le Mandalorien qui se cache là ou quoi, là, mais...
Le vrai nom, c'est le Incendiary Trooper. Donc, le trooper incendiaire. Incendiaire. Quelque chose comme ça.
Puis, mais tu sais, juste là, on est rendu à 4 types de troopers en quelques minutes d'extrait ou de pub. C'est là, ça.
Puis, on remarque quand il met le feu au bâtiment, il y a une quantité incroyable de stormtroopers morts par terre.
Ouais, ben c'est ça. Ça semble être peut-être après une autre scène, là, en tout cas, mais...
qu'on voit plus loin, ouais.
C'est ça, mais tu sais, je trouve ça le fun. On a déjà des Stormtroopers classiques, on a des Scouts, on a les Death Troopers, on a là un Flametrooper, même si c'est pas le bon terme. Je veux dire, ça serait pas surprenant qu'on voit d'autres types d'unités aussi, éventuellement. Entre autres avec Jetpack dans le dos, etc. Donc, non, vraiment, une belle surprise, en tout cas, de mon côté, pour ça. Ensuite, on passe à une visite du Mandalorien dans ce qui semble être la cantina de Mos Eisley. En tout cas, au niveau design. Moi, je me pensais vraiment dans l'épisode 4. Ensuite,
ouais, l'espèce de bar au centre.
Ouais,
là.
Exactement. Honnêtement, peut-être que si c'est pas la même place, là, je trouve que c'est une occasion manquée. Là. Mais ensuite, on passe avec des Jawa aux yeux rouges. Ça, c'est drôle parce que même si j'étais pas sur place comme toi, Danny, sur tous les extraits, j'ai écouté quand même plusieurs versions, puis on entend tout le temps le monde là, dire « Ah, les yeux rouges! » Mais, fait qu'au lieu des yeux jaunes habituels, et on va dire des Jawa agressifs, ou en tout cas des Jawa qui se défendent, parce que...
Ouais, ils sont du côté obscur, ils ont les yeux rouges!
C'est ça, j'avais pas fait le lien! Mais, tu sais, ils ont des blasters dans les mains, puis ils pointent, puis encore une fois, on se croirait dans les mêmes ruelles là, de Tatooine. Donc, l'ambiance, clairement, moi, en tout cas, ça me fait penser à Jedha dans Rogue One. Donc, tu sais, une ambiance explosive, là. On va y revenir un peu tantôt. Mais,
ça fait très marché marocain. Des trucs...
Tu sais, des rues un peu étroites, là, tu sais. Ensuite, on a je m'étais noté un possible chasseur de primes, donc celui dont il était question tantôt avec une espèce de... qui tire à 3 blasters, donc un dans chaque main, puis une espèce de tourelle ou d'autres bras articulés là, sur l'épaule. Effectivement, j'avais pas pensé, mais comme tu disais tantôt, ça fait penser au prédateur, là, son espèce de canon sur l'épaule. Faut avouer que c'est badass quand même. À l'image, tu sais, c'est spectaculaire. Là,
c'est ça, on sait pas si ça va être des partners du Mandalorian ou il va y avoir plusieurs personnes qui vont être qui vont chercher la même prime. Et puis il va peut-être avoir des adversaires. Là.
Mais tu vois qu'il leur serre la main, right? Il y a une scène, okay. Là, tu vois qu'il serre la main. En tout cas, de un de ceux qui est dans... Parce que tu vois comme une séquence que tu vois le gars qu'on a parlé avec le bras. Là. Puis là, il y a comme une Twi'lek qui est comme rose ou mauve. Puis un autre gars là, avec une barbe. Là. Ils sont comme tout ensemble avec le Mandalorien. Puis là, le Mandalorien, il serre la main du gars avec la barbe.
Ouais, moi, c'est ça. Pour l'instant, je trouve que ça s'enligne beaucoup... sur le petit monde des chasseurs de primes. Et la ressource étant presque épuisée, il y a beaucoup de compétition probablement. Mais ouais, j'ai trouvé ça le fun aussi, la Twi'lek en question dont tu viens de parler, mauve. Puis tu sais, on est habitué aux Twi'lek, qui veulent avoir l'air sexy, séduisante, etc. Là, on est pas. Disons que celle-là, je suis pas sûr que j'y offrirais un verre là, en arrivant dans le cantine.
Est habillée utilitaire.
Ouais, ouais, c'est pis tu sais, elle a de l'air moyennement sympathique. T'as pas trop envie d'aller piquer une jasette pis demander comment a été sa journée. Mais bon, ensuite, on passe avec une petite escarmouche dans l'espace dont je parlais tantôt avec le vaisseau du Mandalorien. qui passe tout de suite en hyperespace. Et on a un plan de l'intérieur du cockpit. Et ce qu'on voit assis devant le Mandalorien, c'est un droïde à la tête un peu le style mouche, comme on a déjà vu dans les anciens films. Mais si je ne m'abuse, c'était aussi le cas d'un des chasseurs de primes sur le deck là, de dans l'Empire contre-attaque.
Ouais, ben c'est comme si c'était Zucus, mais en version robot.
Ouais, c'est ça. Puis,
ou Forloom, peut-être, ouais. Mais en tout cas.
Mais tu sais, tu me dis, c'est une référence, c'est-tu. Je sais pas. Est-ce que c'est son petit droïde privé, là parce qu'on. Peut-être c'est le Mandalorien qui pilote quand même, mais de la manière que c'est présenté, on a comme l'impression que c'est le droïde qui pilote.
C'est le pilote du vaisseau, ouais. Mm-hmm. Moi, j'ai l'impression que c'est son sidekick au Mandalorien. Un peu comme. Puis il va être un peu avoir le rôle de K2SO, un peu, d'après moi, le comic relief. Là. Ils vont faire les blagues, puis tout le truc machin. Là. Moi, j'ai l'impression que. Qu'est-ce que je vous mentionnais plus tôt? D'après moi, Nick Nolte, il joue pas un Hognut. D'après moi, il joue le rôle du sidekick. T'sais, il disait qu'il avait enregistré toutes ses voix pour la saison 1 dans une chambre d'hôtel, toute, là.
Okay, ouais.
D'après moi, ils ont fait tout enregistrer les lignes, puis d'après moi, c'est il va être le sidekick là, ou quelque chose comme ça, peut-être. C'est une théorie complètement superflue, mais
je sais pas. J'imagine si tellement de Hill qui parle là, comme. ça serait vraiment drôle.
c'est bon, ça, j'aime bien la théorie quand même.
Parce que c'est un personnage qui est voice-over, qui est un voice actor, versus toutes les autres que probablement. Ils vont jouer leur propre rôle, donc.
Puis ça expliquerait pourquoi on l'a pas vu nulle part jusqu'à maintenant.
Mm-hmm.
Pour enchaîner, ensuite, on a quand même pas mal de scènes d'action en rafale, dont le droïde, qu'on vient juste de parler, qui pointe une arme. Fait que clairement, c'est pas juste un C3PO là, de service qui participe à l'espèce d'escarmouche là, qu'on semble voir sur Tatooine. On a Gina Carano qui mitraille quelque chose de solide. Donc, on reconnaît son ex-fonction de shock trooper rebelle.
Mm-hmm.
Ensuite, on a ce que tout le monde sur le coup a cru être IG-88, mais ça a été confirmé que c'est un dénommé IG-11. Donc, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mais bon. Et quand même extrêmement badass, encore une fois, qui tire dans tous les sens en tournant sur lui-même là, en pleine scène d'action, en pleine escarmouche dans les ruelles là, de Tatooine, probablement. Donc, ça, je pense, ça. Écoute, Danny, d'après ce que j'ai vu, je pense que la salle a fortement réagi.
Oui.
Ça, là. C'est quelque chose qui était désiré, je pense, par pas mal de monde.
Ben, puis c'est comme il y a vraiment la badass, là. Qui se déplace, il tire dans tous les cas. Tu sais, comme son torse peut faire des 360. Là.
Ouais.
C'est vraiment digne d'un vraiment un assassin. C'est un assassin droid, comme IG-88. Donc, j'imagine que c'est ça. C'est pas juste un chasseur de primes. Il est capable de se dépanner, mettons. Là.
Ouais, puis tu sais, je repensais, parce qu'on a déjà vu IG-88, à moins que c'était un autre, encore une fois, là, mais dans Clone Wars. Dans la série de Clone Wars, puis je trouvais que cette fois-ci, ça avait de l'air plus vrai. Tu sais, ça a de l'air mécanique. En vrai, on le sait qu'ils l'ont construit là, au niveau physique là, pour la série, mais tu sais, ça a de l'air réaliste. Tu sais, les mouvements qu'il fait, puis tout ça, là, très mécanique, très raide, là, tu sais, et saccadé, on va dire. Donc, moins.
J'ai l'impression qu'on va on va gagner un niveau de réalisme qu'on ne croyait pas versus les films.
C'est clair.
T'sais, les films ils restent quand même. Oui, l'univers Star Wars a l'air vrai et tout quand même, mais j'ai l'impression que côté grittiness ou comment dire, plus cru, va falloir le comparer à la trilogie originale et c'est là qu'on va voir la différence. Vraiment, Tatooine trilogie originale versus la série télé, ça va être complètement différent. On va vraiment avoir l'impression d'être là.
Ouais, ou encore Tatooine dans l'épisode 1, tu sais, en 99, je veux dire, au niveau technologique, il y avait quand même, c'était plus proche de ce qu'on a aujourd'hui. Ou à l'inverse, ils sont tellement allés dans l'informatique, dans le CGI, que là, on va peut-être avoir plus un entre-deux, entre la trilogie originelle puis la préquelle. Pour revenir au teaser, on enchaîne ensuite avec ce qu'on parlait tantôt, donc le Mandalorien qui sort au fond d'une bâtisse sur Tatooine en tirant sur un paquet de Stormtroopers au pistolet. Donc, encore une fois, ça fait très western. Puis ça nous démontre que clairement, c'est pas un ami, en tout cas à ce moment-là, c'est pas un ami des Stormtroopers, hein, de ce qui reste de l'Empire. En fait, moi, ça revient à ce qu'on parlait tantôt, mais je me demande même si on va encore appeler ça l'Empire. Tu sais, comment ils vont se décrire ou comment. Tu comprends? Est-ce que c'est des Stormtroopers impériaux ou c'est des.
Mais si t'écoutes les paroles qui se disent pendant la bande annonce, ils parlent de l'Empire puis que l'Empire transforme tout en mieux.
Ouais, c'est vrai.
Il s'appelle encore l'Empire en tant que tel, puis j'ai l'impression qu'eux autres. Ça va être vraiment les restes de l'Empire qu'on avait dans la légende, là.
Ouais, ouais.
Ceux qui s'accrochent, ouais. Là. Ouais, ceux ça. Qui s'accrochent jusqu'à la fin, là.
Fait que dans le fond, bref, c'est ça. Moi, l'impression que j'ai, c'est que ça, c'est avant le bout du Flametrooper. Donc, tous les cadavres qu'on voyait, là, c'est le résultat de ça. Ensuite.
Bah oui, puis tu vois plein de trous sur le mur. Tu sais, quand Giancarlo Esposito fait face au mur, il y a plein de trous dans le mur. Donc, clairement, c'est pas la première essai de tuer le Mandalorien ou quoi que ce soit. Il y a eu des tirs de blaster sur le bâtiment auparavant.
Mm-hmm. Ensuite, on a Giancarlo Esposito, encore une fois, là, qu'on suppose être le vilain principal de la série, là, l'antagoniste principal. Qui semble être aux commandes d'un. En tout cas, tout de suite après, on voit un chasseur-taille. Donc, il semble être pilote de chasseur-taille. Autant tantôt, quand je l'ai mentionné, au sol, puis là, dans le vaisseau, une particularité, c'est qu'il n'y a pas de casque. Donc, contrairement à un pilote de normal ou peu importe, un impérial. Donc, il est en armure. Tu sais, il n'est pas en costume d'officier, mettons, impérial. Il est en armure de. Probablement de pilote de taille, mais sans le casque. Puis bon, ben c'est ça, ça semble encore être une fois sur Tatooine là, qui tire au sol. Ça se termine sur le Mandalorien. Je trouve une scène, en tout cas, mémorable, qui pointe sa fameuse carabine là, ultra longue dont tu parlais tantôt, inspirée du Holiday Special, avec une espèce de dément là, allongé au bout du canon. Malheureusement, on le voit pas tirer. Je pense qu'il nous garde la surprise là, pour plus tard, parce que on se demande tous c'est quoi cette arme-là? Qu'est-ce que ça tire? Qu'est-ce que ça fait? Dans le Holiday Special, c'était vraiment le concept d'un aimant. Là. C'était un peu comme des ondes là, tu sais, que ça envoyait. Donc,
ça serait vraiment trop drôle que ça soit ça que ça fait pour vrai.
Ouais, comme un
aimant. Sérieux, ça serait vraiment comme moi.
Ben, un genre de rayon tracteur
genre, là.
Miniature. Là, ouais. Écoute, on va voir. J'ai bien hâte de voir.
En tout cas, ça a l'air très solide parce que je pense qu'il s'en sert pour casser un casque de Stormtrooper.
Ouais.
S'il donne un coup à un moment donné, ça casse le casque.
Que t'es pas solide, le casque, il casse de même. Là.
Ouais.
Mais ouais, ça aussi, ça fait partie de ce que le monde a été agréablement surpris. Mais ouais, moi personnellement, je dois dire, je suis vraiment emballé par le teaser. Là. Clairement, ça va être une série pour adultes et non familiale. Sombre, violente, peut-être pas autant qu'un Game of Thrones ou qu'un Punisher. Mais,
non, je pense pas que ça va se rendre à ce point-là.
Non, c'est ça. Mais pour Star Wars, je pense que ça va être quand même dans le plus rough de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Pour une seconde fois, j'allais dire pour une fois, mais pour une seconde fois avec Rogue One, je pense que je vais être le public cible visé là, idéal. Habituellement, j'apprécie tout ce qui se fait dans Star Wars, mais à part pour Rogue One, je pense que j'ai jamais été le vrai public cible de la production. Alors que là, pour ça, je pense que enfin, je vais être gâté et vous aussi, messieurs. Donc,
ben, je pense que tu sais, il est juste temps qu'on voit le Wars dans Star Wars, mais tu sais, vraiment le côté. Le côté guerre qu'on voit dans Star Wars, tout le temps comme des grosses batailles, mais avec des véhicules, puis tout. Là, c'est vraiment comme des batailles, tu sais, comme des guérillas, puis tout ça. Là, c'est vraiment comme plus le côté humain de la guerre.
C'est un gros western, là.
Ouais, c'est ça.
Quand même.
Ben, c'est pour ça que moi, la référence à Jedha dans Rogue One là, était là tout le long. Tu sais, l'épisode là, de l'attaque des partisans de ça. Là. Mais, tu sais, puis des ruelles, etc. Là, tu parlais de style marché à Marrakech, là, tu sais. Ouais.
Mm-hmm.
Mais non, ouais, moi, très emballé par ça, puis j'aurais tendance à dire peut-être même plus que par le teaser, ou en tout cas le trailer, plutôt de l'épisode 9. De votre côté, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce teaser-là?
Moi, quand je l'ai vu, j'ai vraiment... Ben, j'ai été plus impressionné par l'extrait du premier épisode, parce que c'est ce que j'espérais. Mais j'ai été content de voir qu'on avait un autre excellent acteur comme vilain principal. Donc j'étais bien content. Mais enfin, on pense que c'est lui le principal, ouais, ouais. Du moins. Les petits détails que j'avais remarqués quand on rentre dans la cantine, l'espèce de droïde barman, il ressemble beaucoup à celui qui est dans le palais de Jabba, qui s'occupe de réassigner des tâches aux droïdes.
Exactement, ouais.
Dans le sous-sol, là. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Un autre indice que c'est peut-être Tatooine encore, il s'est peut-être recyclé le droïde, ça se passe après, hein. Fait que...
Ben, ils sont deux, hein. Je pense qu'il y en a deux, il me semble.
Ah, j'ai pas vu le deuxième.
Ouais, ils sont comme un à côté de l'autre, ou un arrière de l'autre.
Mm-hmm. Une autre chose, c'est le vaisseau qui poursuit le Razor Crest dans la séquence très très rapide, et le même vaisseau qu'on voit en concept art dans le making of. On le voit de loin, par exemple, de face, mais c'est le même vaisseau. Donc, on a une bonne idée du vaisseau en concept art si vous regardez le behind the scene avant. C'est quand même... j'ai eu... autant de quoi je vais vous parler dans quelques minutes était pas focusé sur l'action. Ce coup-ci, ça l'était, puis j'ai bien apprécié. Donc, on sait qu'il va y avoir des bons moments d'action. Il va y avoir de l'humour, puis du drama aussi. Donc, c'est quand même un total package de fanservice. Là, ouais. Où c'est carrément ça, je pense, qui vise, vu le succès de Rogue One. C'est pas pour rien qu'ils font une série Cassian Andor après.
Ouais,
ils savent que c'est quelque chose que les fans vont aimer. Là. Ben, les fans de la première génération, je dirais. Là. Ben, première et deuxième génération.
Moi, de mon côté, je suis du même avec vous. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « wow », même si la qualité que nous, on a vue n'est pas très bonne. Puis écoute, c'est peut-être juste l'impression, mais nous, moi, en tout cas, puis Francis, je sais pas si c'était ton impression, mais ce qu'on voyait, la qualité, peut-être à cause de la qualité de l'image, j'ai l'impression que les effets spéciaux n'étaient pas terminés.
Ça m'a donné cette impression-là, peut-être au niveau de la colorimétrie.
Ça.
Mais... ça expliquerait aussi peut-être le blackout, là. Tu sais, le pourquoi c'était gardé autant caché. Là.
Ouais.
Mm-hmm.
Mais,
non, c'est ça. Ouais, en effet. Puis la scène complète qu'ils ont montrée, le début d'épisode, il y a comme zéro effet spéciaux là-dedans. Là.
Mm-hmm.
Ou à peine s'il y en a. Donc, c'était vraiment. Ils sont pas rendus là. Là.
Ouais.
Ils sont en train de monter les premiers épisodes avec les effets spéciaux. Ben, le montage est fait, maintenant, il faut qu'ils ajustent les effets spéciaux, etc.
Ouais. J'ai trouvé ça cool qu'on voit les Death Troopers, que c'était pas juste un one-off dans Rogue One, mais qu'ils ont vraiment une place dans...
Ils ont survécu.
Ouais, ben, qu'ils ont survécu, ou que justement, tu sais, c'était pas juste Krennic qui avait les Death Troopers, là, que c'est comme les Warlords de l'Empire, qui c'est comme leur garde du corps, je sais pas trop. Là.
Mm-hmm.
C'est comme leur bataillon privé, là. Un peu comme la 501st avec Vader.
Mm-hmm.
J'ai aussi... Ce que j'ai aimé, c'est que le Flame Trooper... Ben, le Flame Trooper, je l'appelle de même. Là, c'est un concept qui est pris du jeu de Force Unleashed. Fait que ça, c'était intéressant de voir ça. Il y a aussi un autre Trooper, il me semble, qu'on voit tout en noir, qui ressemble beaucoup à un qu'on voit aussi dans Force Unleashed, qui est un peu plus gros. Donc, c'est cool que qu'ils utilisent des concepts qui ont déjà été utilisés auparavant, soit dans d'autres médias, fait que ça, c'est le fun. Puis
mais Dave Filoni puis John Favreau ont dit qu'elle allait ramener des éléments de légende encore.
C'est donc. Ça, exactement, c'est ce que j'allais dire. Connaissant Dave Filoni, puis qu'est-ce qu'il a ramené dans Rebels, puis dans Clone Wars, ben c'est sûr qu'on va en voir d'autres, on n'a pas fini. Là. Donc ça, c'est vraiment hot. Beaucoup, moi, ce que je suis content, c'est... Puis peut-être parce que ça se passe sur ce Tatooine, mais c'est beaucoup de aliens qu'on connaît, qu'on voit.
Ouais.
Contrairement à la nouvelle trilogie où, à part Ackbar et puis Nemnom, là, les autres, c'est tous des nouveaux aliens. Ce qui est correct, on sait que la galaxie est grande, puis tout ça, là. Mais je trouve que c'est ce qui manque peut-être un peu à la nouvelle trilogie. Il n'y a pas ce sens familier qu'on voyait avec la trilogie originale, mais aussi dans la prélogie. Même si il y a une partie qui se passe sur Tatooine, mais même sur les autres planètes, il y avait quand même un sens familier que je trouve qui est un peu absent dans la nouvelle trilogie. Donc ça, c'est bon de voir que ça ramène vraiment comme aux sources. Puis ça, c'est peut-être juste moi en tant que vieux fan de Star Wars qui est comme « Ah, tu sais, ça me ramène. » Puis j'enlève rien à la nouvelle trilogie. Là. Je suis aussi un fan de la nouvelle trilogie que les premiers films. Donc ça, c'est cool. J'ai hâte de voir c'est quoi aussi l'histoire parce qu'on a un moment où on aperçoit un autre Mandalorian en arrière du Mandalorian, puis je sais pas si c'est à cause de l'effet de la lumière, mais le casque semble soit rouge ou rose de l'autre Mandalorian, fait que je sais pas si tu es un personnage qu'on connaît, si tu Sabine qui est...
Ouais, c'est-tu le casque qu'on avait vu, qu'on se demandait si c'était un vrai casque de Sabine qu'il avait fait?
C'est ça exactement, parce qu'il y a comme la rumeur que Sabine elle aurait un rôle ou un caméo, du moins dans la série.
Ouais, non, mémoire, par contre, c'est peut-être pas la bonne forme de casque. Tu sais, au niveau le côté féminin là, des casques de Mandalorian, on va dire. Sur l'extrait, là, ça avait vraiment l'air comme... Moi aussi, j'ai eu l'impression qu'il était rouge un peu. Là. Mais écoute, de toute façon, il y a tellement de clan puis de style de Mandalorian. D'ailleurs, c'est
mais de la façon qu'il parle, les Mandaloriens ont vu des meilleurs jours. Hein. Mm-hmm. On va en parler tantôt. Là. Mais clairement, d'après moi, il n'y a pas beaucoup de Mandaloriens qui restent ou d'éléments Mandaloriens qui existent dans la galaxie. Là. C'est tout éparpillé un peu partout.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, moi, c'est surtout ça, les petits pas flashbacks, mais les petits, comme tu dis, fanservice. Hein, c'est juste ça, c'est plein de fanservice. Ça donne vraiment envie de voir la série, puis c'est sûr que c'est une façon aussi de vendre le service Disney Plus, hein. C'est comme ok, quand ça va arriver, ben on va s'abonner.
Ben regarde, c'est qui paye, c'est papa puis maman, hein? Donc ils ont quel âge, papa puis maman? Ben c'est sont en quarantaine là, ou fin trentaine.
Mais tu sais, c'est aussi, il y a le côté tu sais, oui, fanservice, bon, peut-être dans l'intrigue, des choses comme ça, mais tu sais, juste des petits easter eggs, là. Le fanservice est souvent présenté comme quelque chose de grossier, tu sais, ou de pas de négatif.
Dividend, tu
sais. Ouais, mais des fois, ça peut être des détails, mais ça fait... Ouais, c'est ça. Ça t'envoie là, un petit peu de bonheur au cerveau, tu sais. Je veux dire, ce qui fait que les gens qui écoutaient Luke Cage puis Daredevil, etc., aimaient la série suivante puis la saison suivante, etc., c'est « Ah, tel épisode, tu revoyais tel personnage que tu as vu dans telle autre série. » Fait que les connexions entre les éléments, puis tu sais, dans Star Wars, ben on connecte les BD, les livres, les jeux vidéo, les films, etc. C'est tout ça, c'est au niveau marketing, puis au niveau... fidélisation de clientèle, etc., c'est super simple à faire, puis c'est super profitable. Tu sais, dans Rogue One, ou dans Solo, par exemple, il y en avait de l'easter egg, là. Mm-hmm. Il y en avait, puis je veux dire, entendre en background le général Syndulla est attendu à telle place, hein. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, ça a pris quoi, là? Ça a pris 2 minutes à enregistrer, mais, tu sais, tous les vrais fans l'ont remarqué, tu sais, puis... Fait que, ça... Moi, je pense effectivement, tu sais, vu l'enthousiasme de Jon Favreau, ce qu'il racontait pendant le panel, etc., clairement, je m'attends à du fanservice. Mais je me dis, c'est l'occasion idéale, tu sais, puis c'est... En tout cas, on va en parler plus tard avec l'extrait du premier épisode, là, mais ça part directement dans le fanservice, là. En tout cas, je vais garder ça pour tantôt, là, mais disons que ça m'a même rendu triste un petit peu, quand même. Le début,
de...
on va en parler tantôt.
Et moi, peut-être juste un dernier commentaire, c'est que je trouve que, tu sais, Disney, ils l'ont dit depuis le début, Disney+, il n'y aura pas de série mature ou de en anglais, tu sais, rated R, là, comme pour adultes, là, comme on, mm-hmm. C'est pour ça que, tu sais, Daredevil puis Punisher, tout ça, ça va pas être sur Disney+, parce que c'est trop violent. Mais mm-hmm. ça montre en même temps que, ah, tu sais, qu'on n'est pas obligé d'aller vraiment dans la violence, mais on est capable de faire une série qui est intense quand même, puis que, tu sais, ça, qui est cru un peu, là.
Mm-hmm. Ah, tant que tu vois pas de sang,
ouais,
ça passe.
Ça, exactement.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça ma grande interrogation. Puis tu sais, c'est parce que je pense que notre perception de ça, du rated R, tout ça, c'est parce qu'il faut comprendre que c'est selon les organismes américains j'allais dire de censure, là, mais en tout cas de peut-être pas le bon terme, là, mais de tu sais qui justement qui rate les films puis les séries, etc. Mm-hmm. Mais c'est ce qui est permis aux États-Unis ou ce qui est permis en France, par exemple, on est à des lieux, là. Donc, mm-hmm. Effectivement, moi, je m'attends pas à voir du gore, je m'attends pas à voir de sang à la Punisher, justement. Par contre, tu sais, juste dans les extraits qu'on a vus jusqu'à maintenant, on peut pas dire que c'est pas violent, là,
que, non, c'est ça.
En tout cas, on va voir, là, mais... Ça, c'est mon interrogation là, de comment, effectivement, quand Disney disait qu'il n'y aura rien de vraiment classé adulte uniquement. En tout cas, j'ai hâte de voir là, comment que ça va se marier avec Disney+. Tu sais, même, je pars quasiment sur un autre sujet, mais sur la série sur Cassian Andor, ce qu'on voit au début de Rogue One, ils vont
tuer. Moi, il tue quelqu'un.
Ça pourra pas être une série familiale.
Non, c'est ça. Mais moi, je pense que Disney Plus va s'adapter de toute façon. Mm-hmm. Ils vont voir qu'il y a une clientèle pour ce genre de série un peu plus violente. Ils vont juste le mettre à des heures ou un certain facilité pour le contrôle parental. Puis ça va être fini.
C'est ça.
Mm-hmm. Simplement.
Mm. Excellent. Alors, donc, on sait qu'il n'y a jamais 203. Donc, une troisième surprise pour. Ceux qui étaient présents à la présentation de Mandalorian au Star Wars Celebration. Il y a eu un extrait du premier épisode qui a été présenté seulement à ceux qui étaient présents dans la salle. Donc, Danny, si tu peux nous donner un peu la description de la scène qui a été présentée.
Clairement, pour moi, c'était le meilleur panel en frais de contenu qu'ils nous ont présenté. Mm-hmm. Et je m'attendais à ce qu'on voit quelque chose, étant donné qu'à chaque fois qu'il il présente des séries télé, d'habitude, il montre un extrait. C'est arrivé à Clone Wars. Mm-hmm. Cette année aussi, on montre un extrait. On montre une bande-annonce plus qu'un extrait. Ouais. Mais dans les années passées, ils montraient un épisode au complet. Je m'attendais pas à un épisode au complet, mais je m'attendais à quelque chose. Et ils nous ont justement présenté environ 8 minutes, 7-8 minutes du ce que tout le monde semble être d'accord qui est le premier épisode. Donc je vais vous décrire un peu, surtout pour ceux qui comprennent pas l'anglais, je vais essayer de survoler un peu les scènes et qu'est-ce qui se dit un peu entre les personnages. Donc ça commence, le Mandalorien est assis dans une cantine qui est possiblement la cantine sur Tatooine. Il est assis à une table en face de Greef Karga, qui est le chef de la guilde des chasseurs de primes. Peut-être une de plusieurs guildes. Mm-hmm. Il y a peut-être des conflits entre guildes aussi. Mm-hmm. Et puis, Greef Karga est joué par Carl Weathers, comme on a dit plus de bonheur. Ce dernier lui présente des petites rondelles qu'il appelle des POC. Tu sais, pour les Canadiens, des POC, on sait. des petites rondelles électroniques qui représentent différentes primes. Donc, il dit, j'ai 4 Bell Jumper qui probablement c'est des gens recherchés ou qui ont... recherchés par les autorités qui se sont sauvés, soit qui étaient emprisonnés ou quoi que ce soit. Et puis j'ai un contrebandier recherché. Fait que là, le Mandalorien il est là, puis il dit, moi j'ai vu tous. Fait qu'il arrive pour toutes les ramasser, les primes. Puis Greef l'arrête, il dit, non, j'ai d'autres membres dans la guilde, là, c'est tout ce que j'ai, donc il faut partager. Fait que là, le Mandalorien il dit, c'est laquelle la plus payante? Dans ces 5-là, il dit, la plus payante, c'est environ 5 000. C'est 5 000 crédits, on imagine. Puis le Mandalorien fait une petite blague. Il dit, c'est à peine pour couvrir mon carburant dans son vaisseau. Donc, c'est bon. On voit qu'il va avoir un petit peu d'humour. Il va avoir un petit côté humoristique ou une bonne répartie, le Mandalorien. Greef, après ça, lui dit, OK, j'ai quelque chose d'autre. Mandalorian dit montre-moi la POC, la rondelle, puis il dit ah, ça, il y a pas de rondelle pour celle-là. C'est face à face avec un paiement direct, mais c'est beaucoup d'argent. Fait que il présente un petit billet électronique. Le Mandalorian prend le petit billet et sort dehors. Là, on le voit marcher dans ce qui est une espèce de marché marocain, comme on dit, de Marrakech. Et je suis pas mal certain que l'image officielle qu'on a vue, la première image officielle, vient de cette scène-là. Ouais. Fait juste marcher, puis tu vois les auvents qui protègent, qui font de l'ombre aux marchands, etc. Mm-hmm. Mais dès qu'on sort, un gros rire de toute la salle au Wintrust Arena, c'est qu'on voit un petit Kwakian Monkey Lizard embroché en train de se faire rôtir. Ouais. comme un gros close-up sur la caméra, et en arrière on envoie un autre dans une petite cage qui attend son qui veut s'en aller parce qu'il sait qu'il est le prochain à se faire rôtir. Vraiment c'est un exemple de Easter egg qui fait plaisir, comme tu disais, Francis. Juste des petites touches comme ça, et puis ça renforce encore le fait que ça peut être sur Tatooine, n'est-ce pas?
Ouais.
Et puis c'est quand même très très intéressant. Pour ceux qui se demandent c'est quoi un Kwakian Monkey Lizard, pensez à c'est Salacious Crumb, la petite bestiole qui rigole à côté de Jabba dans le Retour du Jedi. Donc l'espèce de petite bestiole avec les oreilles un peu en aile de chauve-souris vers le bas. Qui fait...
Ouais, comme un genre comme de bec d'oiseau, je sais pas trop.
Ouais, c'est ça. Donc c'était un coin très intéressant. Bon, ensuite, comme je disais, on voit le Mandalorian marcher dans l'espèce d'allée des marchands, et puis il fait un petit tournant à droite pour aller dans une allée, et puis il arrive en face d'une porte, et il cogne sur la porte, et il y a un petit droïde TT-8L qui sort. Ceux qui savent seulement c'est quoi un petit droïde TT-L8, c'est les le même petit droïde en forme d'œil qui sort de la porte du palais de Jabba. Mm-hmm. Tu sais, qui parle, puis il demande en hottise. Je sais pas, qui probablement aussi qui parle en hottise à ce moment-là. Et puis, le Mandalorian fait juste montrer sa petite, son petit carton sa petite puce d'identification qu'il a ramassé de Greed Karga. Et la porte s'ouvre. Un autre moment de fanservice. Il rentre dans le bâtiment et il y a un gunk droid qui l'accueille et qui l'accompagne jusqu'à une autre pièce. On voit qu'il marche dans un couloir qui est très très bunker impérial. On le sait qu'on s'en va dans un endroit qui est contrôlé par l'Empire un peu. Là. Donc la porte s'ouvre et il est accueilli par 4 Stormtroopers avec des armures blanches très très usées, très très sales, qui protègent un impérial. Qui pour l'instant qui a pas de nom, on n'a pas le nom du personnage, mais qui est joué par l'acteur Werner Herzog. Donc on en parlait un peu plus tôt. On sait pas c'est quoi son nom du personnage, mais c'est un impérial. Il lui mentionne, ben justement le personnage de Werner Herzog mentionne Karga me dit que t'es le meilleur de tout le Parsec. Puis tu coûtes cher. Là, soudainement, il y a un scientifique qui sort d'une porte. Un scientifique qui s'appelle le Dr. Pershing, qui se fait présenter sous le nom du Dr. Pershing, qui est joué par l'acteur Omid Aptahi. Puis bien sûr, le Mandalorian, avec ses réflexes, dégaine son long fusil en sa direction et les Stormtroopers, instantanément, lèvent leur blaster vers le Mandalorian. Et même un des Stormtroopers dit au Mandalorian désolé mais on est 4 contre toi là. Le Mandalorian lui répond I like these odds, donc j'aime ce ratio. C'est un autre bon fan service qui rappelle Han Solo, qui rappelle que bon pour lui 4 Stormtroopers bon il y a rien là, ils savent pas tirer anyway. Mm-hmm,
ouais.
C'est vrai. Donc, bien sûr, le personnage de Herzog lui mentionne « Ok, calme-toi, là, on a un deal à faire. » Donc, fait que tout le monde baisse leurs armes, le Mandalorian se rassit. Il se fait offrir un morceau de Beskar. Beskar, je vais vous dire c'est quoi Beskar, merci Wikipédia, je m'en souvenais pas. Le Beskar, c'est un minéral mandalorien qui est extrêmement dispendieux. et qui est très rare, qui est miné sur la lune Concordia de Mandalore. Donc, la lune, une des lunes de Mandalore qui est Concordia, qu'on voit dans Clone Wars, d'ailleurs. Puis, ce minerai-là est utilisé pour les armures, les armes, les vaisseaux, puis même vendu comme métal précieux, un peu comme si c'était des diamants, en fait. Très, très dispendieux. Donc, juste le petit morceau qui est à peu près... je dirais 5 cm par 15 cm, qui offre au Mandalorien, il dit, ben ça c'est juste une partie du paiement. Tu vas recevoir, je pense qu'il y a un container de Beskar après avoir complété ta mission et livré le asset. Bon, on va discuter un petit peu après, c'est quoi le possible asset, la cible qu'il doit ramener. Donc imaginez une quantité de Beskar, comment ça peut valoir. Après ça, le Dr. Pershing demande de le ramener vivant. Donc, on sait que c'est une personne. Le personnage de l'Impérial mentionne que une preuve de décès, c'est aussi acceptable, mais la prime va être inférieure. Bien sûr, le docteur, il dit, ben, c'est pas ça qu'on avait, qu'on s'était entendu comme deal. T'sais? Mais il dit, bon, étant donné que les temps sont difficiles pour les chasseurs de primes, bon. Si t'as une preuve de décès, ça va être acceptable. Donc l'impérial lui donne un tracker, probablement le tracker qu'on voit au début du behind the scene. Je crois que c'est exactement le même d'ailleurs, avec un code partiel, un code de track partiel qui date de 50 ans, qui dit. Donc ça fait très très longtemps. Et il va offrir aussi la dernière position connue de cette personne-là. Donc, le Mandalorien accepte, prend la pièce de Beskar et quitte la pièce. Et pendant qu'il quitte la pièce, l'Impérial dit ses derniers mots. Il lui dit que le Beskar devrait rester entre les mains d'un Mandalorien. Et il est bon de ramener les choses à son équilibre naturel après une période de désarroi. Qui parle de la culture mandalorienne, je crois. Mm-hmm. Il dit, n'est-ce pas? Il dit ça au Mandalorien. Et ça termine ainsi. Le petit 8 minutes. Tout ça était sous une espèce de musique. J'espère que c'est la musique officielle qu'on va avoir. Le compositeur a été nommé. Je l'ai pas écrit, mais on connaît le compositeur. Mais si vous écoutez la musique attentivement quand vous allez écouter le clip, ça fait très musique Gladiateur, le film Gladiateur, ça fait très Game of Thrones. Il y a beaucoup une vibe tribale. On parlait de Marrakech où il y a des instruments que tu verrais en Afrique du Nord aussi, des instruments de musique un peu perse, arabe, tu sais. Donc il y a vraiment une vibe différente musicalement qui est intéressante. Donc j'espère que ça va rester, que c'est vraiment la musique qu'on a entendue, c'est vraiment la musique qu'on va voir lors de la série. Donc messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier extrait officiel?
Moi, ce que j'ai trouvé cool, puis écoute, je sais pas s'il y a un lien direct ou pas du tout, mais justement, le personnage joué par Omid Abtahi, il a joué aussi un personnage dans Clone Wars, qui était un Mandalorien, je pense, un cadet Mandalorien, si je me rappelle. Okay. Donc, j'ai pas le nom, fait que je sais pas si c'est le même personnage qui reprend ou pas. Ah non, il s'appelait un personnage qui s'appelait Amis dans Clone Wars, donc c'est pas le même nom.
C'est pas le même nom, non.
Ah, ok. Ça aurait été cool, ça aurait été un autre lien de Dave Filoni. Mais...
Et ça aurait été super chercher loin, ça. Là.
Ouais, c'est ça. Non, ça, écoute, ça même s'il n'y a aucune scène d'action ou quoi que ce soit, ça donne le ton. Ça donne aussi le ton côté clin d'œil aux fans. Juste dans les deux premières minutes, je pense qu'il y a une dizaine de clins d'œil. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment cool. Puis ça donne vraiment le goût de voir la suite. Donc, je suis content de savoir que ça semble pas être un bébé qu'il faut qu'il recherche, comme disaient les rumeurs.
Mm-hmm.
Donc, c'est au moins ça, parce qu'on ne savait pas trop où ça s'en irait avec un bébé, la série.
C'est peut-être une jeune personne à défaut d'un bébé.
C'est ça, ouais. Donc, à suivre. Mais non, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir.
Mm-hmm. Parce que quand même, quand il dit « the asset, dead or alive », donc vivant ou avec un certificat de décès, pour le scientifique, c'est une personne importante de l'avoir vivante. Puis si c'est un docteur, ça doit être un ADN ou un héritage, justement, dans les rumeurs qui disaient que c'était pour rétablir la société mandalorienne, donc peut-être un des héritiers de Mandalore, etc. Donc ça offre une opportunité ici de ramener ça. Et pour l'impérial, lui, c'est pas important. Donc, est-ce que l'impérial, lui, veut autre chose? Il y a des rumeurs qui parlent du Darksaber, des Vizsla dans Clone Wars, des trucs machin. Peut-être même dans Rebelle, le sabre que Sabine a à un moment donné, c'est-tu le Darksaber?
Oui.
Oui, bon. Ça peut être ça aussi, c'est peut-être Sabine qu'il faut qu'il ramène.
C'est ça que j'allais dire, peut-être c'est ça le lien, c'est super caché, c'est secret, mais c'est Sabine.
Ben, en fait, à moins que je me trompe, c'est plus elle qui l'a à la fin.
Non, elle l'a donné à une autre personne.
Mm-hmm. Mais, ouais, tu disais, c'est ça, reste à voir le rôle du scientifique, l'intérêt que lui a. Moi, d'ailleurs, ce serait mon petit côté, ma très légère critique de l'extrait, là. J'ai trouvé que le scientifique était limite caricatural. En tout cas, il était très... ça m'aurait pas surpris d'une BD. Là, il a l'air de sortir d'un laboratoire, alors que clairement, la période est pas tant à ça. Mais, je sais pas, on va voir si ça, c'est le... Tu sais, si l'élément de surprise là, du dernier épisode de la saison, ça va être on va apprendre pourquoi il voulait tant cette personne-là. Je sais pas à quel point ça va. Moi, je trouve que à première vue, c'est une intrigue qu'on a déjà vue souvent. Tu sais, je veux dire, entre la série de films Le Transporteur, où tu sais, le côté, là, ok, le gars, une fois qu'il rencontre la personne ou qu'il réalise que c'est le collier,
faut qu'il protège, etc., ouais.
Il finit par décider de pas respecter le contrat puis de se rebeller. En tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai tellement confiance en Jon Favreau là, que je me dis, c'est sûr qu'il peut pas prendre un concept aussi redondant, là, aussi déjà vu. Mais
ça a-tu besoin d'être compliqué aussi? Ça peut être un...
Non, ben c'est ça. Je me demande à quel poids ça va avoir dans l'histoire, ça. Ou si c'est tout simplement un point de départ du premier épisode. Ça se peut très bien là, que toute la saison tourne pas autour de ça.
Peut-être que c'est juste vraiment... on pense, à quoi c'est un extrait du premier épisode, que ça c'est sa mission principale qui se fait offrir. Clairement, avec le montant qui est offert, possiblement, c'est ça qu'on pense. Mais c'est peut-être juste une cible ultra particulière et difficile à aller chercher qui va faire un lien avec le vrai objectif. Mais moi, je suis convaincu qu'il va... Comme tu dis, Francis, je suis convaincu qu'il va arriver devant l'objectif, puis il va voir c'est quoi. Il va dire non, moi, si c'est un Mandalorien, désolé, moi je le protège, je détruis pas ma culture, là, tu sais. Puis il va revirer de bord, puis là, tous les impériaux vont essayer de le tuer, puis lui, il va se défendre, puis là, il y a le Flame Trooper va arriver, Jen Carreau va arriver, tu sais, comme.
Ouais, ce que je trouve drôle, c'est l'aspect, moi, effectivement, quand tu parlais tantôt du tracker qu'on voit dans le behind the scene, clairement, c'est pas sur Tatooine. À moins que Tatooine avait une zone polaire puis qu'on ne l'avait jamais vue, là. Mais je veux dire, c'est comme tu disais tantôt, ça avait plus l'air d'une genre de place dans le Grand Nord où est-ce qu'il n'y a rien qui pousse, là, un lac, des lacs gelés, là, ou des affaires de même. Fait que si le tracker indique cet endroit-là, tout le reste de la scène sur Tatooine d'action, ça se passe avant, ça se passe après. Il se bat déjà avec des Stormtroopers. Ou est-ce qu'il revient sur Tatooine par après? Écoute. Fait que j'ai bien hâte de voir à quel point ça va être le genre grande intrigue pour toute la saison que t'attends à la fin avant de savoir le fond de l'histoire. Ou l'inverse là, des épisodes quasiment là, qui ont pas rapport entre eux. Je serais surpris parce que la mode est plus du tout à ça. Là. C'est plus les anciennes séries là, qui étaient comme ça, là, que les épisodes t'en manquaient un puis ça changeait rien. Mais ouais, c'est ça. Je sais pas si ça va être encore une fois on a déjà l'épisode 9 qui apparemment tournerait autour d'un MacGuffin. Est-ce que ça va être encore ça là?
C'est l'année des MacGuffin.
Ouais, c'est ça. Et à la fin, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la mallette? On le sait pas.
Ouais, c'est ça.
On le saura.
Dans le container de Beskar, qu'est-ce qu'il y a dans le container de Beskar?
Ouais, c'est ça. En même temps, moi, en tout cas, j'ai hâte de voir, là. Moi, quand il parlait de son container, je me disais, belle bullshit impériale, là, mais bon.
Non, c'est ça, il n'y a rien d'autre qui
l'attend. Il ne demande rien, il accepte le contrat, puis il s'en va, tu sais, sans réelle garantie, là, mais bon. Ou ça a tellement une grande valeur que juste l'échantillon qu'il y a eu, il est déjà bien content. Puis ça vaut la peine de se lancer là-dedans.
Ou il va arriver pour livrer la marchandise, puis le lampin va dire « Ah, ben merci, mais finalement, on te tue. »
Ouais, ça, c'est plutôt le genre aussi. Mais j'ai hâte de voir aussi, tu sais, l'aspect, parce qu'au tout départ, là, tu l'as mentionné, là, quand l'extrait commence, ou l'épisode commence, il est question, tu sais, il y a des petits boulots qui refusent, en tout cas, comme tu dis, là, il dit « ces temps-ci, ça paye même pas mon gaz. » Puis, tout de suite après, il mentionne que okay, l'autre job, la grosse job, c'est Underworld. C'est off the record, etc. Fait que ça veut dire quoi, ça? Tu sais, dans le Star Wars, dans l'univers Star Wars de 5 ans après le retour du Jedi, ça veut dire quoi, Underworld? Vous comprenez ce que je veux dire?
C'est off the record, tu sais. C'est ça. Si lui, c'est un impérial, donc c'est quelque chose.
C'est ça, quel genre de job peut être à ce point? Tu sais, t'es déjà dans bordure extérieure où est-ce que probablement que la Nouvelle République a pratiquement aucun contrôle, etc. Donc, ça veut dire quoi, Underworld, là? Ça veut dire ça. Je sais pas, là, moi dans ma tête.
Je suis en train de réfléchir, puis j'ai l'impression que la job qui se fait offrir, oui, c'est un gars qui travaille pour l'Empire, et puis qu'il y a des Stormtroopers, mais il est un peu séparé de Monsieur Giancarlo Esposito, le grand méchant. Il essaye peut-être de rétablir quelque chose avec un scientifique, mais non sur les enregistrements de l'Empire. Il fait partie de l'Empire, mais il veut faire quelque chose off the books. Et je fais ça pour moi, puis pour Dr. Pershing, puis pour autre chose. Les Stormtroopers qui sont là sont fidèles à ce gars-là. Il y a peut-être quelque chose qui vraiment séparé. Il essaie de prendre. Peut-être le gars essaie de prendre le contrôle de Giancarlo aussi. Là. Il a l'air d'un bon leader lui aussi. Là.
Ouais. Ils ont des intérêts différents. Là, mais ouais, ça serait intéressant de voir des différentes factions d'impériaux aussi. Là. C'est quelque chose qu'on avait vu dans Aftermath. Des impériaux qui se battent entre eux.
Ouais,
donc, tu sais, t'aurais les impériaux qui donnent le contrat, puis t'as ceux qui essayent de l'empêcher de le réaliser.
Mais... D'où peut-être le fait que il y a plein de Stormtroopers de morts, mais peut-être que le Mandalorien, il était tout simplement directement en train de sortir de la place et puis il se faisait attaquer. Là. J'exagère un peu, parce que je pense qu'il sortait avec plusieurs personnes, le Mandalorien, d'après le teaser. Là. Mais d'après moi, après quelques recherches, il va se rendre compte qu'il y a autre chose qui se passe.
Mais, puis dernière, tu l'as mentionné tantôt, là, mais les fameux singes lézards, là, j'ai quand même eu une petite larme.
Ah ouais, c'était...
Je ne sais pas ce qui est le plus triste, c'est celui qui grille ou celui qui va griller.
Qui voit son sort. Ouais.
Puis tu sais, tu peux te dire, ok, bon, c'est un animal quelconque, là, mais tu sais, maintenant, grâce à...
C'est un animal intelligent, là.
Ouais, c'est ça, grâce à la nouvelle dans les légendes de Luke Skywalker. Tu sais, on sait que c'est un animal intelligent, tu sais, avec une conscience, etc. Il y a d'autres livres aussi, d'autres éléments, là, où est-ce que, c'est ça, on sait qu'il y en a d'autres de cette espèce-là qui sont moins débiles que celui de Jabba, là. Donc, c'est ça. Mais bon, écoute, j'ai trouvé ça drôle et triste.
Mais la salle a vraiment ri quand ils ont vu ça. Là. Vous allez l'entendre partiellement sur la vidéo, mais la salle était... Et tout le monde l'a compris tout de suite. Là. C'était vraiment drôle. Là.
Ah, je peux seulement imaginer.
Non, mais l'ambiance était vraiment bonne dans l'aréna. On l'entend pas de tout à fait... à son volume enregistré sur un téléphone. Là. Mm-hmm. C'était impressionnant d'être là.
Excellent. Je sais pas si vous avez des derniers commentaires ou quoi que ce soit.
Moi, j'attends plus ça que l'épisode 9.
Ouais, moi aussi, ça revient à ce que je disais tantôt pour le teaser. Là. Globalement, je pense que... En tout cas, personnellement, j'ai plus d'anticipation pour ça. Jusqu'à maintenant, je suis enthousiaste. Il n'y a rien qui me déçoit, entre guillemets, là, dans tout ce qu'on sait. Ensuite, on sait aussi que ça va être beaucoup plus d'heures de contenu qu'un film. Mm-hmm. Donc ça, je m'y retrouve aussi. John Favreau commande, écoute, puis Dave Filoni qui est de retour. Ça aussi, je veux dire, je pouvais pas demander mieux. Moi, personnellement, je suis pas un grand fan des Mandaloriens, de la culture mandalorienne. Je sais qu'il y en a qui sont des fans finis de ça, etc. Mm-hmm. En même temps, je peux pas dire, tu sais, en dehors du titre de la série, pour l'instant, je suis pas tant convaincu que ça va beaucoup tourner autour de la culture mandalorienne. Bon, là, il y a l'histoire du métal, là, de l'acier mandalorien là, qu'on a parlé. Mais, je sais pas, moi, j'entrevois plus une histoire, un style western, là, avec chasseurs de primes et des bandits, puis du monde à la morale très élastique.
Buteuse.
c'est ça. À l'éthique élastique. Mais, ouais, c'est ça. En tout cas, peut-être que le temps va me donner tort, mais c'est ça. Je vois pas le gros lien, OK, sur les Mandaloriens. Là, t'sais. Puis, une des questions aussi, c'est est-ce qu'on va finir par avoir un nom pour le personnage ou on n'aura carrément jamais? Est-ce qu'on va voir son visage ou on le verra jamais?
Ça va être dans l'ordre... On va, à la fin de la saison, voir son visage. Peut-être la saison 2, on va prendre son nom.
Ouais, c'est ça.
C'est le fils de Boba Fett.
Non.
Hey boy. Faudrait pas.
Non,
ah, ça, c'est comme l'histoire de pourquoi le scientifique veut ça absolument, là, puis les impériaux. Là, j'ai déjà vu passer comme théorie là, que c'est pour recloner Palpatine. Là, si quelqu'un m'arrive encore une fois avec des histoires de clones de Palpatine, je pense que je l'envoie chier. Là, vraiment, je veux pas qu'il s'en aille dans cette direction-là des légendes, là, mais tellement pas. Là.
Tu vas être déçu de l'épisode 9 d'abord.
Ah ouais, ben ça, écoute, ça reste à voir, ça aussi. On voit plein de théories circuler ces temps-ci. Hein.
Ouais.
Mais moi, j'ai hâte de voir le produit final parce que c'est quoi, ils ont 100 millions pour le nombre d'épisodes de la saison 1. C'est beaucoup d'argent par épisode. Là.
Ouais, je pense qu'ils disaient que c'était 10 millions par épisode qu'il y avait. Fait qu'il d'après moi, il va y avoir 10 épisodes dans la saison.
Ouais. Ouais.
Ouais, c'est vrai qu'au début on parlait de 10 millions par épisode, mais en partant, c'était convenu de toute façon que les premiers épisodes coûtent plus cher aussi, tu sais, puis, mais moi ce que je remarque, ça fit avec la période aussi, mais côté mécanique, côté vaisseau et compagnie impériaux, à part un TIE Fighter, on n'a rien vu. On a juste vu un TIE Fighter, on a vu une carcasse, je pense, à un moment donné, de TIE.
Ouais, ouais. Dans le behind the scene, ouais. Ouais. Ben, puis on voit quand Esposito va en pilote 1, là, on en voit un dans les airs.
Ouais, c'est ça. C'est ça, je disais. Je pense que c'est le seul qu'on voit. Fait que, tu sais, au niveau des coûts de production, ben, c'est sûr que si on n'est plus dans les gros vaisseaux, les gros robots, etc., peut-être qu'il y a des économies là, de ce côté-là.
Bon, en fait, les effets spéciaux sont en cours de production. Là. À part la petite maquette qu'on a vue que le gars des effets spéciaux a fait dans son garage.
Ouais, le vaisseau.
Le vaisseau, le reste, on n'a rien vu dans l'espace. Hein. Ouais, on a vu une bataille spatiale, mais il n'y aura pas de Star Destroyer. Là. D'après moi, ils sont tous partis avec Sloan. Il y aura... Ça va être plus des petites corvettes, des vaisseaux plus petits là, qui vont rester. Là. Des transporteurs impériaux, des trucs comme ça. Là.
Comme on voit un peu dans Rebels. Là. Ou dans quoi? Ouais. Ouais, dans Rebels, ouais, c'est ça.
Ouais, un vaisseau qui a 4 TIE Fighters de prix en dessous.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Ça serait quand même très cool de le voir à l'écran pour la première fois. Là. En tout cas, au semi-grand écran. Je sais plus trop comment il faut appeler ça. Là.
Ouais, puis ça me surprendrait pas aussi de voir des tonnes et des tonnes de vaisseaux rapiécés de l'Empire.
Ouais.
Donc, même ceux qui survivent, des anciens, des restes de l'Empire qui salvagent, donc qui récupèrent des carcasses de leur propre vaisseau pour les rebâtir. Parce qu'ils ont probablement plus les shipyards, ils ont plus les chantiers navals pour se reconstruire des gros vaisseaux, là, nécessairement. Là.
Non, c'est
ouais,
ça.
Ben ça c'est quelque chose qu'on voit déjà en comics puis qu'on voit dans la nouvelle série Résistance. Donc évidemment ça se passe plus tard, là, mais ça se passe même un bon 25 ans plus tard, mais tu sais, c'est toutes les autant les vaisseaux que les uniformes. T'sais, c'est tout le temps des bouts d'uniformes rapiécés là, puis Mais c'est quelque chose de très cool, ça donne des vaisseaux uniques, tu sais. Mais côté coût de production, c'est ça. Tu sais, il n'y aura pas de grosse bataille spatiale à la, mettons, début de Revenge of the Sith, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me dis 100 millions, là, s'ils mettent dans les effets physiques, dans les décors, etc. Je pense que, en tout cas, c'est ça. Ça fait partie des éléments qui me font m'attendre à mieux que l'épisode 9, ou en tout cas à de quoi que je vais plus apprécier.
Parfait, merci messieurs. Alors, c'est sur ce que nous allons conclure l'émission. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce que nous venons de discuter par email à studio@starwars.direct, sur l'article de l'épisode sur notre site starwars.direct, ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter, notre compte Instagram, ainsi que notre chaîne YouTube.
Je voudrais rappeler que faire attention de ne pas spoiler les gens.
Oui.
Quand vous postez sur nos comptes des réseaux sociaux, assurez-vous de mentionner la mention spoilers. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent rien savoir. Il y a plein de gens qui n'ont jamais vu ces extraits-là, qui ne sont pas intéressés de les voir. Donc, respectez-les, s'il vous plaît.
Oui. Parfait. Exactement. Merci. À prochaines émissions, on sait qu'il y a un spoiler sur l'épisode 9 qui est en préparation. Je sais pas quelle autre émission. C'est sûr qu'on va avoir une critique de Master and Apprentice dans les prochaines semaines aussi. On rappelle que nous sommes toujours en période de recrutement au Québec et en Amérique du Nord. Donc, si vous êtes passionné de Star Wars et vous voulez en discuter avec nous, allez sur notre site starwars.direct dans notre section recrutement. Et on rappelle aussi notre boutique à starwars.direct section boutique pour vous procurer des t-shirts de Star Wars en direct et des tasses si vous êtes en Europe. On rappelle que Star Wars en direct est disponible sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play et Apple Podcasts. Et on remercie encore une fois nos partenaires Mintinbox, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science Fiction, ainsi que Jeff et Kim, le Space Trash Show. De la part de Danny, Francis et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.